France Culture.
J'ai apporté Tova Engar de Céline Minard, et dont les personnages sont à la fois très précisément décrits et en même temps correspondent à des espèces dans un monde post-humain.
Estelle Mouton-Rovira, maîtresse de conférences à l'université Bordeaux-Montaigne.
C'est pas vraiment d'une lectrice que je vais vous parler, mais c'est d'une créature qui s'appelle une hydro, qui est genrée au féminin, c'est le pronom « elle » qui la désigne, et elle découvre dans une sorte d'hiéroglyphe dont elle comprend que ce sont des traces qui ont été laissées par ses ancêtres, mais c'est une forme inédite de récit qu'elle ne connaît pas et qu'on lui a jamais enseigné. Et donc je vous lis simplement le résultat de sa lecture. Elle se sentait étrangement flottante. Les heures qu'elle venait de passer à découvrir et déchiffrer le graphe allégeaient son humeur. Malgré sa perplexité, elle se trouvait dans un état agréable, comme au réveil lorsqu'un rêve s'efface doucement et laisse derrière lui quelque chose de son mystère. Elle ne comprenait pas tout à fait ce que sa lecture changeait de ses micro-perceptions, ce qu'elle avait déplacé dans son esprit, dans son savoir et dans ses représentations. La texture du monde s'était imperceptiblement modifiée. Koeb Sienev se laissait imprégner par cette nouveauté incertaine, sa peau se détendait. Juste l'effet de cette lecture qui a été un moment de trouble et d'incompréhension. Et justement là, elle reprend ses esprits, elle s'ajuste à cette nouvelle perception du monde.
Lectrice.
Celles qui lisent, une série documentaire d'Hélène Goutani, réalisée par Anne Pérez. D'Aristote jusqu'à Marcel Proust, la lecture a toujours été pensée comme un soin au mot de l'âme. Sadie Peterson de Laney, bibliothécaire noire américaine, sera la première à en appliquer le principe au sein d'un hôpital. Lors de sa prise de poste, en 1921, à l'hôpital de Tuskegee, en Alabama, elle tente de soigner les traumatismes des anciens soldats afro-américains de la Première Guerre mondiale. À chaque patient, un ouvrage et le souci d'apporter de la littérature afro-américaine à des hommes vivant leurs conditions d'hommes noirs dans un état ségrégationniste. Aujourd'hui, à l'hôpital de la Salpêtrière, ce sont des femmes qui apportent ce pansement littéraire aux patients.
C'est le fait de toquer à une porte, parce que c'est pour ça que je les remercie aussi toujours de m'avoir ouvert leur porte, parce que c'est pas rien, enfin je veux dire, c'est un peu comme s'ils m'avaient ouvert chez eux. Puis moi j'arrive en couleur, plein de couleurs, oui.
Épisode 6, bibliothérapie, le soin par les mots.
Bonjour. Je suis Laure de la liseuse et je suis en très très bonne compagnie féminine. Je crois que Lorraine vous a parlé de nous.
Oui, tout à fait.
Vous êtes toujours d'accord pour nous accueillir?
Oui, simplement que je suis en chimiothérapie aujourd'hui et ce qui n'était pas prévu normalement. Ils ont avancé d'un jour parce que mon état n'était pas très bon.
Joël.
Alors voilà, c'est pour ça.
Donc service de bipé.
Voilà, c'est tout simplement.
Franchement, moi j'ai l'habitude et
d'accord,
ça me gêne pas.
D'accord, je vous préviens parce que peut-être que tout le monde n'est pas...
Voilà.
Vous savez, je ne sais pas si Lorraine vous l'a dit, mais en ce moment, nous travaillons sur les métamorphoses féminines. Et donc tout ce qui traverse le corps de la femme et des femmes.
Traverse bien mon corps là.
Alors vous êtes traversée et effectivement vous connaissez des turbulences,
oui.
mais nous sommes attachés à toutes les turbulences qui sont communes à toutes en fait, par l'âge et le tempérament. Il y a des choses que l'on reçoit, que l'on ressent plus ou moins fortement. Les gens s'approprient, s'accrochent à ces mots et se racontent peut-être une autre histoire que celle que je raconte moi. Et ça leur permet, en tout cas, de me raconter, de me dire, bah oui, mais c'est comme moi. Et il m'est arrivé ça, et ça, et ça. Les mots, les textes, la littérature permet d'accéder à des endroits, mais très, très, très vite, chez l'autre. Les mots ouvrent des portes incroyables. C'est-à-dire bien au-delà de ce que je peux, moi, penser, croire. J'allais dans un magasin de maquillage avec une copine essayer tout ce qu'il nous était possible d'essayer, de parfum, de rouge à lèvres, de vernis, et c'était une vraie petite fête. Un jour, en remontant la longue rue piétonne qui menait vers chez moi, baignée dans une douce lumière de printemps, et moi j'adorais la ville au printemps, un sentiment de liberté, d'avenir, mais non, car je vis de loin la colère se dessiner sur le visage de mon père qui nous attendait à la terrasse d'un café. Mon père qui s'était levé soudain et s'était dirigé furieux vers nous. Moi, j'ai le souvenir d'une gifle retentissante au milieu de la rue. Et furieux, il avait dit « Enlève-moi ça tout de suite !»
Ça vous évoque des choses ?
Bien sûr.
Vous avez un mauvais souvenir comme le personnage ?
Non, parce que peut-être que je n'ai pas eu des parents qui n'étaient aussi... Comme, j'avais même une mère qui était très féminine et qui ne voyait pas ça d'un mauvais œil. L'interdiction, comme vous avez évoqué, tout à fait formelle, c'est quelque chose qui, effectivement, peut vous marquer dans la vie. Hein. C'est sûr.
Donc moi, je m'appelle Laure Siriex et je suis comédienne à la compagnie La Liseuse. Je suis contente de venir. Je les vois parfois aller mal, d'autres fois aller beaucoup mieux. Moi, je suis sur le devant de la scène, mais derrière, ouais. On a travaillé en amont avec Caroline. Elle lit, elle défriche beaucoup de textes. Il y a une littérature qu'elle aime, qu'elle m'a fait découvrir, qui évolue aussi et qui se modernise, enfin avec plein de choses. Et à partir de là, moi qui ai l'expérience sur le terrain, quelquefois elle me propose, elle me dit « J'ai des nouveaux textes pour toi, viens, on se met à travailler à la table. » Elle me les lit et je lui dis « Ah oui, ça, bien, bien. » D'autres fois, je dis « Ça, non, ça me plaît pas et ça, je me vois pas lire. » Ce texte-là aux patients.
Je suis Caroline Girard et j'ai créé la compagnie La Liseuse il y a presque 20 ans maintenant. C'est une compagnie de lecture à voix haute, faite par des comédiens, comédiennes, professionnels, qui se déplacent dans tous les lieux comme l'hôpital, la prison, tous les lieux dits de public empêché, mais aussi les théâtres, les librairies, les médiathèques, enfin tous les autres endroits de la cité en fait. On ne vient pas faire du divertissement, on vient vraiment déclencher des réactions, des résurgences de mémoire, d'émotions, de choses comme ça. Il y a l'idée de faire du bien, oui. Il y a l'idée d'une sorte de pansement, on pourrait appeler ça un pansement littéraire en fait. C'est-à-dire qu'on va faire du bien, mais le faire du bien, ça passe aussi par des crises de larmes, par toutes sortes de choses. Il y a des moments où ça se serre dans les gorges, mais... Ça fait aussi du bien parce que ça libère de quelque chose, finalement.
À rose, on dit d'être une dame, ne pas cracher, ne pas jurer. À bleu, on dit d'être un homme, ne pas pleurer, ne pas demander d'aide. Bleu doit se masculiniser, rose doit se maquiller. À bleu, on dit plein d'argent. À rose, on dit plein d'enfants. Bleu se tapera une dépression et rose se tapera du botox. Bébé de chair, né nu. C'est le monde, bienvenue. J'aime votre sourire.
Merci.
Ça vous évoque des choses ?
Oh bah oui.
Vous avez été formatée comme ça ?
Enfin, oui.
Vous pensez que ça vous a modelé, ça vous a peut-être coupé un peu les ailes ?
Pas du tout, parce que j'ai 4 frères.
Sophie.
On faisait les mêmes choses. On grimpait dans les arbres, on faisait tout pareil.
Donc à aucun moment, vous n'avez souffert de ne pas être assez rose aux yeux des bleus, on va dire.
Si, à l'adolescence.
Qu'est-ce qu'on vous disait ?
Bah ça, d'être féminine. Ouais, d'être féminine, de se maquiller, de pas faire ses cheveux. Pas tout de suite.
Vous avez suivi les injonctions ou...
Il y en a, oui, bien sûr. Bien sûr. On n'a pas le choix.
Est-ce que tu as lu hier soir ?
Oui.
Tu as lu quoi ?
J'ai lu La famille d'Aladin.
Ah, ça parle de quoi ?
Bah, en fait, ça parle de quoi ? Mais je me souviens plus beaucoup. C'est Aladin et il disparaît partout.
Aladin disparaît, on va le retrouver. C'est un livre, c'est un gros livre, c'est un petit livre.
En fait, c'est un livre comme ça.
Donc 20 cm.
Oui.
Il est comme ça.
Non.
Plus grand.
C'est beaucoup plus
comme
grand.
Comme les trucs comme ça.
Non, beaucoup plus grand.
Quoi ?
C'est un gros livre.
Le gros livre.
Donc là, on est sur 20 cm.
Oui.
Et il y a beaucoup d'images dedans ?
Il n'y a pas d'images. C'est juste, on lit, mais il n'y a pas d'images.
Et le livre, là, tu l'as lu, il y avait ta maman ou ton papa à côté de toi ?
Non, je lis toute seule dans ma chambre. Après, je lis et après, je continue à lire toute l'histoire, mais je m'arrête et je mets un marque-page pour lire la suite l'autre soir.
Pourquoi c'est important d'avoir des personnes qui viennent vous lire des extraits ? Qu'est-ce que ça fait justement d'avoir...
Ça m'a fait du bien, ça change. Ça fait penser à autre chose. C'est pas une grande réponse, mais c'est...
Vous lisez beaucoup ou est-ce que c'est quoi vos rapports à la littérature ?
Alors, je lis, mais là, ici, non. Je peux pas me concentrer ici. Donc, je lis pas.
C'est pour ça que c'est important peut-être d'avoir des personnes qui viennent vous lire des extraits de littérature.
Oh, c'est sympa, ouais.
C'est la première fois que vous vous rencontrez toutes les deux ?
Tout à fait. Okay. Tout à fait. Merci, Sophie.
Au revoir.
Merci à vous.
Merci.
Moi, j'adore la lecture. Donc, de toute façon, je lis beaucoup. Donc, je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que parfois, ça ferait quand même réfléchir sur notre propre vécu et tout, c'est sûr. Parce que, en fait, ce qu'on aime parfois dans la lecture, c'est que on sent dans le livre qu'on lit parfois que s'il y a des choses qu'on ne s'avoue pas et qu'on l'écrivain nous suggère, si vous voulez. Et dans notre imaginaire, ça fait quand même un petit tilt, tiens.
Ne camouflez pas vos imperfections, elles sont votre respiration. D'ailleurs, il n'y a pas d'imperfection. Toute votre épopée, toute votre histoire danse et modèle votre peau.
Alors, ce groupe de lecture, je l'ai découvert suite à la maladie. Après le cancer du sein que j'ai eu. En fait, j'ai appris en fait, au sein de l'hôpital qu'il y avait des soins de support. Et j'ai participé au premier atelier, deuxième atelier, différents ateliers, groupe de lecture avec Laure. J'aime beaucoup les textes en fait, qu'elle nous sort. Qu'elle nous évoque, en fait. Alors, je suis Yvonne Lam, j'ai 55 ans. Je suis d'origine asiatique, du Vietnam. Alors, le club de lecture, en fait, ça me permet justement de m'exprimer autrement, de penser justement la souffrance, en fait, que j'ai eue. Je pense que je l'ai encore quelque part. Mais peut-être de l'atténuer, justement, en parlant de texte, qui se rapproche justement à ça. Ça me permet de cicatriser, entre guillemets, la maladie, en fait. La blessure, on va dire. Parce que vraiment, j'ai quand même une cicatrice. Voilà.
Est-ce que vous étiez une grande lectrice avant ?
Alors, une grande lectrice, non. J'étais une lectrice moyenne.
Ça veut dire quoi ?
Une lectrice moyenne, ça veut dire bon, je lisais de temps en temps, mais pas régulièrement. Des fois, je m'attarde assez longtemps en fait sur un livre qui me plaît, et quand je rentre dedans, j'avance, jusqu'à presque la fin, je m'arrête. Je veux pas connaître la fin. Je veux laisser en fait comme s'il y avait pas de fin en fait. Je ralentis vraiment à la fin. C'est comme si ça pouvait continuer, en fait, et que je voulais pas que... Voilà, que ça... C'est un moment où je veux pas que ça se termine, en fait.
Et puis, on partage quelque chose avec les autres. On est en communion, puisqu'on écoute tous la même chose. On est tous dans un moment de partage intense, qui est ressenti différemment, peut-être, par les uns et les autres, hein, de toute façon... Par rapport au degré de la maladie, par rapport à notre état d'âme du jour, par rapport à... Enfin, Myriam, donc j'ai 66 ans. On peut aussi mettre des mots sur nos douleurs, sur notre vécu, où la pudeur, elle disparaît peut-être un petit peu. On n'est plus dans un contexte Voilà, il n'y a que moi, il n'y a que... On se renferme un peu sur notre maladie. Et quand on est dans des ateliers comme ça, c'est une espèce d'ouverture sur ce qu'on ressent et on a le droit d'exprimer. Alors, de là à dire un pansement, pour moi, c'est plus qu'un pansement. On ne fait pas que de colmater pendant 5 minutes quelque chose. C'est plus profond que ça.
Pendant qu'on... Corinne. Qu'on réfléchit, qu'on écoute, lire des textes, ça permet de s'évader. Et puis quand on réfléchit, on se recentre sur soi. Et quand on est malade, on n'a pas toujours la chance d'avoir des aidants familiaux. Et quand on n'a pas cette chance-là, bon, c'est mon cas, ça permet qu'il y ait au moins un endroit où on ressent de la bienveillance, où quelqu'un vous écoute, fait attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez. Dans ce sens-là, c'est vraiment très important.
Moi, ce que j'aime dans le travail que nous faisons à la liseuse, c'est l'hôpital public, c'est tout le monde est là, c'est toute la société, y compris et surtout des gens qui ne lisent jamais, parce que voilà, ça ne leur est pas donné. J'ai fait des rencontres énormes. Il n'y avait rien dans sa chambre, mais rien, pas long de magazine, de rien du tout. Et chaque fois que je toquais à sa porte pour lui demander s'il était d'accord pour que je lui lise, oui, et je voyais son sourire, c'était comme si je faisais un cadeau, comme si je lui avais apporté. Puis ça se sent, les gens qui sont... friands, même s'ils n'ont pas la culture. D'ailleurs, bien souvent, j'ai envie de dire que les grands lecteurs me méprisent. Les patients lecteurs. Bah, ils me disent, bah, écoutez, vous êtes gentil, mais moi, j'ai besoin de personne pour lire. Dommage.
La voix est un outil thérapeutique extraordinaire. Bien sûr, avec la voix, on peut tuer aussi. Hein, l'insulte, l'injure, ça tue l'autre. Mais la voix, c'est aussi ce qui contient, ce qui ranime, ce qui nous permet de faire du lien avec les êtres. Et la voix, ben pour l'ancienne kiné que je suis, c'est aussi un outil incroyable. C'est des ondes, hein, la voix, qui viennent envelopper les personnes, qui viennent les caresser, qui viennent les envelopper. Et c'est un outil de contention doux, et c'est un outil de présence aussi. Régine de Tambelle. Je suis à la fois soignante et romancière, mais je suis aussi essayiste. Et puis, depuis une quinzaine d'années, je forme des personnes à la bibliothérapie, c'est-à-dire à l'utilisation des textes pour accompagner des publics, pour en prendre soin.
Vous étiez kinésithérapeute.
Oui, c'est ça. La kinésithérapie, ce que je trouvais de fabuleux à l'époque, c'était que nous tenions compte de l'ensemble du corps. Mais c'est là que j'ai été face à la douleur, les douleurs chroniques. Et les douleurs chroniques, on se rend compte que les gens en font une histoire. Parce que la douleur, dans certains cas, devient un personnage dans la vie des gens. Elle fait partie de la famille. Et je me suis dit, il y a peut-être des choses à faire. Voilà.
En lisant, nous laissons d'autres êtres pénétrer en nous. Nous leur faisons de la place sans difficulté, car nous les connaissons déjà. Le roman, c'est ce qui célèbre cette reconnaissance des autres en soi et de soi dans les autres. C'est le genre humain par excellence. Nancy Houston, l'espèce fabulatrice.
J'avais été frappée par ce rapport ministériel de Sophie Marinopoulos, qui est psychologue de l'enfance et de la famille. C'était 2019. Et ce rapport ministériel s'appelait « La santé culturelle contre la malnutrition culturelle ». Alors, quand elle parle de culture, il ne s'agit pas de connaissances, mais il s'agit tout simplement de transmission d'histoire. Et en fait, en tant que psychologue, elle s'était rendue compte que les enfants ne recevaient plus la nourriture d'histoire de la part de leurs parents ou de leur famille ou de leur ou du milieu dans lequel ils vivent. Et en fait, quand on n'a plus d'histoire pour se nourrir, donc pour se raconter, on perd notre humanité, parce que les humains, nous sommes, nous, une espèce fabulatrice. Alors l'expression « espèce fabulatrice », elle est de Nancy Houston. Et l'espèce fabulatrice, nous, les humains, c'est-à-dire que nous vivons de nous raconter des histoires, nous vivons d'histoires qu'on nous raconte, et tout le socle de nos vies, ce sont des histoires. Quelqu'un qui a fréquenté des personnages, qui a appris à redynamiser son psychisme, qui a appris à assouplir un petit peu ses manières de voir, en se confrontant à l'altérité qui est dans les livres, eh bien c'est sûr que ces personnes-là auront beaucoup plus de facilité à se réinventer quand il y a un coup dur que des personnes qui vont rester à ruminer le récit, l'histoire du médecin, le diagnostic, etc. et qui va en rester au langage familial.
Oui, moi aussi, je dis cela, coach. Je prends une lampe de la bibliothèque, je prends la lampe et après, je lis un livre.
Où est l'espèce humaine ? Dans les fictions qui le constituent. Élaborées au long des siècles, ces fictions deviennent, par la foi que nous mettons en elles, notre réalité la plus précieuse et la plus irrécusable. Bien que toutes tissées d'imaginaire, elles engendrent un deuxième niveau de réalité, la réalité humaine, universelle, sous ses avatars si dissemblables, dans l'espace et le temps. Hantée par ces fictions, constituée par elles, la conscience humaine est une machine fabuleuse et intrinsèquement fabulatrice. Nous sommes l'espèce fabulatrice. Nancy Houston, l'espèce fabulatrice.
Alors Lucie Guillet, un personnage assez extraordinaire. Moi que j'ai découvert donc en écrivant l'un de mes premiers ouvrages sur la bibliothérapie, il s'appelait « Les livres prennent soin de nous ». Et donc je fouille un petit peu et je tombe sur cette psychologue de Sainte-Anne, donc Lucie Guillet, qui en 1946 publie un ouvrage qui s'appelle « Poético-thérapie ». C'est quelques décennies après la méthode Coué. On redécouvre l'importance de se répéter des choses à voix haute et l'importance de se parler à soi-même, se dire des choses à voix haute. Alors elle était poète et psychologue, et elle avait inventé, on peut dire, ou réinventé, parce que ça existait dans l'Antiquité aussi, l'utilisation de la poésie pour accompagner ses patients anxieux, ses patients dépressifs, etc. Et alors, comme elle était poète et qu'elle avait le sens du rythme des phrases, eh bien, sélectionner de la poésie. Alors, elle aimait manifestement la poésie plutôt classique et elle avait testé sur des cohortes de patients. Elle avait testé des choses et elle s'était aperçue que quand on faisait apprendre par cœur à des patients quelques vers, donc qui pouvaient se répéter quand ils sentaient que monte l'angoisse, par exemple, ou quand ils sentaient que le désespoir commençait à les regagner, eh bien, elle s'est aperçue qu'elle a réussi à vraiment améliorer leur état. Elle leur prescrivait, pour le coup, d'apprendre par cœur quelques vers. Il y a une page assez marrante où elle dit que quelqu'un de dépressif et de phobique, ou une personne plutôt anxio-dépressive, comme ça, qui avait des petits moments de phobie, eh bien, lui avait fait se répéter, quand il sentait monter l'angoisse, « Nous sommes les cadets de Gascogne !» Et alors, c'était Edmond Rostand, hein, c'était quelque chose de... Voilà. Alors, effectivement, ça peut se rapprocher de certaines techniques dont on se sert aujourd'hui dans les TCC, techniques cognitivo-comportementales et émotionnelles, TCCE, en fait. Et ça marche.
Alors... Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froid dur. La vie m'est trop molle et trop dure. J'ai grand ennui entremêlé de joie. Tout à un coup, je ris et je larmoie. Et en plaisir, main grief, tourment j'endure. Mon bien s'en va. Et à jamais il dure. Tout en un coup, je sèche et je verdoie. Ainsi, amour inconstamment me mène. Et quand je pense avoir plus haut de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis quand je crois ma joie être certaine, et être au haut de mon désir et heurt, il me remet en mon premier malheur. Louise Labbé, je vis, je meurs.
Et je vois, par exemple, en maison de retraite, mais... Pas seulement, je vois avec des jeunes femmes, après des burn-out, je le vois parce que c'est l'expérience que j'ai, notamment de mes stagiaires en bibliothérapie. Vous voyez les visages qui tout d'un coup se colorent, des visages qui tout d'un coup, moi j'aime bien dire carrément, se raniment, comme si ça circulait de nouveau. Mais ce qui circule, c'est pas le sang, c'est pas l'énergie, c'est pas la lymphe, ce qui circule et recircule, c'est le psychisme qui se redynamise et c'est le langage qui revient.
Un jeune migrant à qui j'ai raconté une légende, pourquoi la mer est salée, c'est une légende vietnamienne. Je lui lis tout ça, il m'écoute et il me dit « T'as raison que la mer est salée, regarde ce qu'elle m'a fait. » Il me montre ses blessures et il me raconte toute sa migration. J'étais mal. Je dis « Je suis désolée de t'avoir raconté cette histoire. » Il m'a dit « Mais non. » Et en fait, j'ai senti que ça lui... Justement, les mots, quand les mots ouvrent, il m'a raconté tout ça et ça le libérait de quelque chose. Il m'a... Et moi, je me sentais comme ça à côté de lui.
Ils se mirent en route et arrivèrent devant une maison bien éclairée qui n'était rien d'autre que le repère d'une bande de brigands.
Merci les enfants.
La lectrice, l'électrice.
C'était Celles qui lisent, épisode 6, Bibliothérapie, le soin par les mots, avec Sophie, Joël, Estelle Mouton-Rovira, Laure Siriex, Caroline Girard, Yvonne Lam, Myriam, Corinne, Régine de Tormel, Dulcina, Alia et Kelsey. Lecture par Claire Poinsignon. Prise de son, Éric Villenfin, Sandrine Malon et Virginie Lorda. Mixage, Éric Boisset. Documentation, Annie Signoret et Antoine Villose. Archivina, Mylène Touchet, chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Celles qui lisent, une série documentaire d'Hélène Goutani et Anne Pérez.